Bonjour et bienvenue, vous écoutez Litteramour en compagnie de Sigrid Brinkmann et de
Clarisse Cosset. Dans notre 9e épisode, Esther Dischereit va nous parler d'un événement tragique qui a bouleversé, anéanti et brisé la vie de nombreuses personnes. Esther Dischereit est poète, écrivaine et essayiste. Yom Kippour est un jour de paix, de repentance et de réconciliation. C'est la fête la plus importante dans la religion juive. En 2019, Yom Kippour tombait dans le calendrier juif sur le 9 octobre. Il existe à Halle une petite communauté juive. Ce jour-là, le 9 octobre 2019, un groupe de juifs berlinois avait décidé de venir passer cette journée de prière et de jeûne avec la communauté juive de Halle.
51 personnes s'étaient réunies dans la synagogue de Halle pour y célébrer Yom Kippour lorsqu'un homme lourdement armé a tenté aux alentours de midi de forcer la porte pour tuer le plus de monde possible. Comme la porte a résisté à son attaque, il a erré dans les rues et tué une femme qui se trouvait sur son chemin ainsi qu'un jeune homme qui était dans un petit bistrot où on sert des kebabs. Dans sa fuite criminelle, cet homme a aussi gravement blessé un couple. Il a fallu que se produise un accident pour que la course folle du meurtrier soit enfin arrêtée. Tout le monde était horrifié.
Que des juifs soient contraints de se barricader dans une synagogue sous la menace mortelle d'un assassin aurait été partout dans le monde un scandale inadmissible. Que dire lorsque cela se produit en Allemagne, le pays où a été pensée et mise en place la solution finale ? On connaît ces photos datant de 1938 avec des badauds devant des synagogues en flammes. Aujourd'hui, des personnes qui haïssent tout ce qui ne leur ressemble pas postent sur Internet en live leurs crimes qu'ils filment avec une caméra frontale.
À Christchurch, à Pittsburgh, à Halle, ils veulent éliminer les juifs, les musulmans, les personnes de couleur, les femmes. Agissent-ils seuls ? Non, ils font partie d'une communauté qui se retrouve dans le Darknet. Et leur famille reste muette pendant les procès.
Au bout d'un procès qui a duré 28 jours, l'accusé des actes terroristes de Halle a été condamné à la rétention à vie, assorti d'une peine de sûreté. Il s'agit d'un homme de 28 ans qui, pendant tout le procès, n'a jamais fait part du moindre regret. L'écrivaine et essayiste Esther Dischereit a assisté au procès de Halle. Elle vient de publier, sous le titre « N'aie pas peur, raconte tout », un recueil de témoignages des personnes qui ont survécu à l'attaque du 9 octobre 2019. On y trouve également des plaidoyers des avocats des parties civiles.
Esther Dischereit avait auparavant assisté au procès contre les membres et les amis du groupe criminel NSU, en allemand le groupe nazisme clandestin, qui a commis 9 crimes racistes entre 2000 et 2006. Ces crimes ont longtemps été considérés par les autorités comme des règlements de compte entre étrangers et les soupçons ont longtemps pesé sur les membres des familles des victimes turques, allemandes d'origine turque et grecque. Ce n'est qu'en 2013 qu'Angela Merkel a présenté ses excuses aux familles des victimes et qualifié de « honte pour notre pays » les manquements cruels de la part des autorités allemandes dans cette affaire. Le livre d'Esther Dischereit, « Des fleurs pour Othello », a été publié dans une édition bilingue, en allemand et en turc. C'est une longue complainte dans laquelle elle retrace comment les vies des familles des victimes du NSU ont été brisées. Elle veut comprendre comment ces crimes ont été possibles et comment on a empêché si longtemps leur élucidation. Lorsque Esther Dischereit a entendu la nouvelle de l'attentat de Halle, elle a immédiatement appelé ses enfants pour savoir où ils étaient.
Ich hatte mich ja im Zusammenhang der Arbeit über die Verbrechen des NSU, nationalsozialistischen Untergrund, sehr viel mit Rechtsextremismus beschäftigt.
Dans le cadre de la recherche que j'avais faite sur les crimes du NSU, je me suis beaucoup penchée sur le problème de l'extrême droite. Et je me suis dit que Halle ne serait certainement pas le seul endroit où un attentat allait se produire ce jour-là. C'est pour cela que j'ai appelé mes enfants. J'avais également eu des contacts avec des victimes de l'attentat de Pittsburgh et, oui, si on peut dire, j'avais l'impression que la menace se rapprochait de nous, de ma famille. C'est comme cela que l'extrême droite agit. Et je pouvais imaginer que d'autres attentats aient lieu à d'autres endroits en Allemagne. Je me suis fait énormément de soucis. Et puis il y a eu un autre problème. Quand j'ai appris qu'il y avait un groupe de Berlin sur place qui ne parlait pas allemand et qui se retrouvait avec des gens qui parlaient allemand et russe, je me suis dit qu'ils auraient du mal à communiquer et qu'ils auraient certainement besoin d'aide. Il y a eu une deuxième attaque dans la rue Ludwigsfuhrer. Elle a eu lieu dans le restaurant de kebab des frères Tekin, qui ont été visés, tout comme les clients qui se trouvaient alors là. puis une autre à Widersdorf et encore d'autres pendant la fuite du meurtrier. Et je me suis demandé comment toutes ces personnes, qui étaient tellement différentes, allaient pouvoir être représentées, se faire entendre et obtenir une représentation juridique. Comme j'avais assisté au procès du NSU, je savais combien il était important, à mes yeux, que les victimes puissent s'exprimer dans le cadre d'une procédure juste où elles bénéficieraient d'une aide sociale. Pour moi, c'était clair que les victimes allaient avoir besoin de cela. Cela m'a beaucoup préoccupée. Comment cela allait-il être possible?
Plusieurs associations ont aidé à mettre en place un soutien psychologique, en l'occurrence l'aide mobile aux victimes de Halle, l'association berlinoise OFEC et une association qui aide les victimes de crimes racistes et antisémites. Des gestes symboliques, tels la visite du président Frank-Walter Steinmeier à Halle, sont importants, mais les victimes ont en premier lieu besoin d'aide matérielle concrète pour les premiers mois qui suivent l'attentat.
Also das Problem des Opferschutzes, auch Opferfonds, der also schnell abrufbar wäre.
La protection des victimes, des moyens rapidement débloqués pour aider les victimes pendant un certain temps, tout ce dont on aurait eu besoin n'a nullement fonctionné. Pour tout dire, c'est une vraie catastrophe. On a eu le même problème après l'attentat de Hanau, après celui de Halle et pour les victimes du NSU. C'est terrible. Il existe des fonds censés être attribués aux victimes. Il existe un représentant qui est censé s'occuper des victimes. Mais de quels moyens dispose-t-il et que fait-il concrètement? Qui vient, par exemple, pendant un certain temps rendre visite une fois par semaine à Mme Münkemeyer-Zinnecker et lui demande ce qu'on peut faire pour elle? Les victimes se retrouvent confrontées à des institutions, mais on ne leur a pas appris comment il fallait remplir les dossiers, ni comment s'y retrouver dans la jungle du droit social. Elles sont tout simplement gravement handicapées. C'est un peu comme si on leur disait « Bon, vous avez vécu un drame, maintenant il faut remplir des formulaires ». Mais ces victimes, elles souffrent quotidiennement. Elles essaient de s'en sortir, mais elles manquent cruellement d'aide. Cela vient peut-être du fait que la République fédérale n'a pas clairement mesuré la nécessité d'instaurer ce type d'aide après des actes commis par des terroristes d'extrême droite. Quand, pendant des dizaines d'années, on s'emploie à nier le rôle de l'extrême droite, il n'est pas étonnant qu'on ne sache pas comment mettre en place des fonds pour aider les victimes.
Hat man eben auch nicht auf der Agenda, wie die Opferfonds ausgebaut werden.
Dans toutes les prises de position des personnes qui ont témoigné au tribunal de Magdebourg sur ce qui s'était passé le 9 octobre à Halle, il ressort une critique envers les agissements de la police.
Ich erinnere noch, dass Rabbiner Jeremy Borowitz sagte.
Je me souviens que le rabbin Jeremy Borowitz a dit « Oui, bon, la police, I'm sure they can do better. Je suis sûr qu'ils peuvent mieux faire. » Derrière cela, il y a une histoire qui est vraiment incroyable. Il ne faut pas oublier que les gens dans la synagogue ont été forcés d'y rester et d'attendre sans rien savoir. Et puis la police est entrée et leur a parlé. Beaucoup de victimes ont dit que cela a duré très longtemps avant que la police arrive et qu'elles avaient l'impression que la police les considérait, elles, comme des criminels. Et puis beaucoup de choses se sont passées qu'on pourrait attribuer à un manque de tact. Parmi les personnes présentes dans la synagogue, il y avait des proches de survivants d'Auschwitz. On leur a donné des numéros avant de les faire monter dans le bus. Ce n'est pas possible. On leur a interdit d'emporter leur nourriture cachère avec laquelle elles voulaient rompre le jeûne. Visiblement, personne dans la police n'a entendu dire qu'il était possible que des croyants fassent un jeûne et que ce jeûne allait ensuite être rompu. Une fois montés dans le bus, les gens n'ont pas été protégés des photographes. Et en ce qui concerne l'encadrement, ils se sont aussi carrément trompés. Ils ont envoyé une nonne catholique dans le bus. Cela évoque fatalement les épisodes de prosélytisme auxquels nombre de juifs ont été soumis de force. Et M. Borowitz a alors dit qu'il ne mettait pas en doute que les policiers avaient certainement voulu bien faire. Mais vous savez, dans une situation pareille, quand il arrive une telle chose à des juifs, il préfère, dans ces moments, être avec des juifs. Finalement, M. Borowitz a dû demander l'aide du consulat américain pour pouvoir rentrer chez lui à Berlin avec sa famille. Et la famille Zinnecker-Münkemeyer, à Widersdorf, où l'homme et la femme ont été grièvement blessés, ils ont appelé plusieurs fois un hélicoptère et on leur a dit d'aller voir dehors pour identifier le meurtrier. Complètement absurde. Madame Münkemeyer avait à ce moment-là plusieurs balles dans le dos. Mais la police a continué à poser des questions. Finalement, elle a demandé à un voisin d'expliquer au téléphone à la police ce qui se passait afin qu'on la croie enfin. Et tout est dans le même registre.
À aucun moment pendant le procès contre le terroriste de Halle, la police n'a songé que les tenues d'assaut des officiers qui montaient la garde et qui portaient des cagoules noires pouvaient troubler ces personnes traumatisées. Personne n'a fait preuve d'empathie à leur encontre.
Dann hat das Land Sachsen-Anhalt, das hat ja jetzt noch mal ganz spät so eine sehr intern gehaltene Sicherheits
Le Land de Sachse-Anhalt a organisé très tardivement une réunion pour parler de sécurité et a invité des rescapés de l'attentat. Mais tout cela a eu lieu beaucoup trop tard. Au fond, ce n'est plus possible de réparer le mal qui a été fait. Et on se demande ce qui doit ressortir d'une telle réunion. Qu'est-ce que les rescapés doivent dire, sinon que leur traumatisme est réactivé? Doivent-ils à nouveau décrire ce qui s'est passé? Combien de fois encore? Tout est clair pourtant. Et ce que je trouve très grave, c'est la façon dont la police a agi dans la rue Ludwig-Wurera. Rifat Tekin se trouvait dans son restaurant de kebab. Son frère Ismet était sorti et est venu à la rescousse de Rifat et des gens qui étaient dans le magasin à un moment où les balles fusaient de toutes parts. Les policiers sur place étaient armés de pied en cap et se trouvaient à 80 mètres de là. Ismet Tekin était sans armes, sans vêtements de protection. Et la police n'a pas avancé pour arrêter le meurtrier. Mais qu'attendait-il donc? Et à la fin du procès, la juge a félicité la police. C'est plus qu'étrange.
Quand on lit les témoignages d'Ismet Tekin, un des deux propriétaires du restaurant de kebab où le jeune Kevin S. a été assassiné, il est difficile de comprendre pourquoi le tribunal l'a aussi longtemps empêché de se déclarer partie civile. Ce sont des organisations de la société civile qui l'ont encouragé à se faire entendre pendant le procès. Le Migrationsrat, la confédération de plus de 80 associations de migrants, des groupes antifascistes, mais aussi des particuliers étaient présents à Magdebourg. La radio locale Corax a joué également un grand rôle pendant le procès et nombre de personnes concernées par l'attentat s'en sont servies pour parler librement de ce qui devait être dit et entendu. Esther Duscheret.
Das Verfahren selber im Gerichtssaal hat auf mich so gewirkt, dass ich mir dachte, ach, wenn jetzt Studierende, wenn jetzt Schüler hier die ganze Zeit Zugang gehabt hätten.
Le procès m'a tellement marqué que je me suis dit que si des étudiants ou des élèves y avaient eu tout le temps accès, ils auraient certainement compris ce que le terrorisme d'extrême droite veut dire. D'un côté, on a clairement vu ce que cela a fait aux victimes quand l'Office fédéral allemand de la police judiciaire a décidé d'arrêter l'enquête à un moment donné et s'est contenté de croire que le terroriste avait agi seul. Mais ces gens-là, les étudiants, les élèves, n'ont pas pu assister aux audiences. Les parties civiles ont publié un blog, mais j'avais l'impression qu'il n'était accessible qu'aux initiés, qui ont suivi l'affaire de près, ou qu'à ceux qui savaient déjà quoi rechercher. C'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait rendre tous ces documents accessibles au public. Il faut les publier, même si on n'en tire actuellement aucun profit. Les audiences ont été enregistrées, c'est une première, et c'est sans aucun doute très bien d'avoir documenté cela. Mais ces archives sonores ne seront accessibles que dans 30 ans. Et on ne peut pas travailler avec du matériel sonore qui ne sera accessible que dans 30 ans. Cela, c'est une chose. L'autre chose qui m'a toujours beaucoup touchée, c'est que dans la tradition juive, dans la tradition des persécutions juives, on doit documenter tout ce qui se passe. Tout doit être documenté. Il y a des témoignages qui ont été déposés dans la terre. Personne ne savait alors que quelqu'un les trouverait et les lirait un jour. Mais cela a été écrit, et moi-même, je me sens faire partie de cette tradition. Je me dis, il s'est passé quelque chose, et ce qui s'est passé doit être décrit. Le document doit exister pour pouvoir se rappeler de ce qui a eu lieu. Comme je disais, c'est une obligation qui est très ancienne et qui remonte beaucoup plus loin que ce qui s'est passé à Halle. Dans la synagogue de Halle, il y avait quelques personnes qui ont des survivants de la Shoah dans leur famille. Beaucoup de choses n'ont pas été dites dans ces familles, mais la mémoire est encore là. Cela a été conservé.
Für mich ist eines der eindrücklichsten Zeugnisse das von Rabbinerin Rebecca Blady.
Un des témoignages les plus marquants est celui de Rebecca Blady, qui est rabbin. Elle a dit ceci. Je téléphonais à ma grand-mère, elle a plus de 90 ans et vit à New York. Je lui ai demandé si je pouvais raconter son histoire ici. Et elle m'a expressément chargé de le faire. Elle m'a dit, n'aie pas peur, raconte tout. De quoi retourne-t-il et pourquoi est-ce important? La grand-mère de Rebecca Blady est une survivante d'Auschwitz et n'a jamais eu la possibilité de porter plainte pour ce qui lui est arrivé auprès d'un tribunal allemand ou international. Et aujourd'hui, c'est sa petite-fille qui occupe cet espace pour elle. Cela va beaucoup plus loin que la consternation qui nous a saisis après l'attentat de Halle. D'autres personnes qui viennent d'Europe de l'Est ont été abordées en yiddish par Mark Lupich, un des représentants des parties civiles. Certaines d'entre elles viennent de familles où il y avait des partisans qui avaient lutté contre les nazis, contre les forces d'occupation. Toutes ces histoires étaient là, elles aussi. Et c'est dans ce contexte que j'ai considéré qu'il était important que l'histoire des victimes soit racontée. Elle est très particulière, car les victimes qui ont été attaquées dans le restaurant de kebab, les rescapés de la synagogue et les autres victimes ont réussi dans ce procès à se sentir toutes liées les unes aux autres. Le terroriste a attaqué tout ce que l'extrême droite rejette.
Buchstäblich, täglich verfolgt.
Cet individu faisait la chasse aux juifs, aux musulmans, aux réfugiés, aux noirs et aux femmes. Ce n'est pas un groupe particulier qui était visé. Et Sadishreit se rappelle que des membres du Ku Klux Klan étaient un jour entrés dans la ville américaine de Charlottesville en criant « Les juifs ne nous chasseront pas ». Charlottesville n'est pas une ville qui compte de nombreux juifs. Le juif est, dans ce cas précis, le symbole de ce qu'on rejette. À Charlottesville, c'était en fait la population afro-américaine qui était visée.
Le recueil « N'aie pas peur, raconte tout » publié par Esther Dischereit est un document précieux. En le lisant, on s'aperçoit que les victimes, indépendamment de leur niveau d'études et de leurs origines, se sont presque toutes senties en confiance pour exprimer leur vécu et leur désir de justice. Elle montre clairement que l'extrémisme de droite menace la société civile dans ses fondements. Et que, condamné à la prison à vie, un meurtrier dont on choisit d'ignorer les relations qu'il entretient avec le Darknet n'est pas suffisant. Le livre nous laisse deviner que l'enquête menée pour éclaircir ce crime a été fort lacunaire.
Also der Täter selber hatte das ja auf der Agenda, sich an die Community auch zu richten. Das war von vornherein so.
Le meurtrier voulait s'adresser à sa communauté. Il en a été question dès le début. Et cela a même été documenté et commenté sur la toile. La direction générale de la police judiciaire n'était pas au courant, mais les experts, Dr. Quent et Caroline Schwartz, qui avaient été invités par les parties civiles à participer au procès, eux le savaient. Il y a encore tellement de choses sur lesquelles on devrait enquêter. Qui a réagi à quoi et comment? Qui a encouragé les actions? Mais hélas, rien ne se passe dans ce domaine et le dossier ne va pas être réouvert. Ce qui n'est pas clair non plus, c'est la façon dont l'entourage du terroriste, sa famille, ses connaissances, les voisins du village, n'ont certes pas forcément été informés dans le détail de ce qu'il avait prévu de faire, mais néanmoins lui ont donné un cadre dans lequel il pouvait se dire qu'il n'exécutait finalement que ce à quoi les autres pensaient. D'où cela vient-il ? Que quelqu'un puisse penser qu'il ne fait que ce que les autres veulent? Comment est-ce que cela s'installe? Qui n'a pas dit à temps, lors d'une fête par exemple, « Je ne veux pas entendre tes paroles de haine » Qui est-ce qui, au lieu de dire cela, a simplement ricané? Ce n'est pas un crime d'État, mais c'est le terreau qui sert de base. Ce qui m'a aussi donné beaucoup à réfléchir, c'est que la mère du terroriste est professeure d'éthique et que son établissement n'a jamais émis le moindre doute quant à ses qualités de professeur. Mais la lettre d'adieu qu'elle a laissée lorsqu'elle a fait une tentative de suicide est antisémite, clairement antisémite. C'est terrifiant. Et lorsqu'une des parties civiles demande à l'ami de la sœur du terroriste « Que faites-vous pour que votre fils ne devienne pas lui non plus un fasciste ?» Il répond « Je sais pas. C'est pas impossible que ça se produise. » Voilà le genre de questions qui restent sans réponse.
Das sind Fragen, die bleiben alle ungelöst.
Esther Dischereit n'avait pas tout de suite imaginé qu'elle assisterait à l'ensemble du procès. Mais au fil des jours, elle a acquis l'intime conviction qu'il serait important de témoigner de ce procès dans un livre.
Der Prozess hat mir einfach nur deutlich gemacht, wie wichtig es ist, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren.
Le procès m'a montré combien il est important de s'engager contre l'extrémisme de droite et d'insister fortement pour que les autorités qui font les enquêtes fassent vraiment leur travail. On a eu quasiment au même moment d'autres résultats d'enquête dans le dossier des meurtres racistes du NSU, avec par exemple le fait que l'avocate Seda Bacha Yildiz, qui représente les parties civiles, est tout le temps menacée de mort. C'est un danger et une menace pour la société qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Il ne faut pas minimiser en disant « bon, oui, ça s'est passé ». Parallèlement à cela, il y a eu à Francfort le procès contre le meurtrier de Walter Lübcke, le chef de l'administration du Land à Kassel, un membre du CDU. Il est très déplorable qu'il ait fallu qu'un homme politique, un homme qui appartenait à la société majoritaire dominante, se fasse assassiner pour qu'on voit clairement que c'est la société dans son ensemble qui est menacée. C'est ce que ce procès de Halle m'a montré à moi, personnellement. C'est un message urgent, et cela a renforcé en moi mon appartenance à tous les groupes qui font partie du mouvement qu'on appelle en allemand « les nombreux ».
L'association des Vielen, les Nombreux, a été créée en 2017 à Berlin. C'est une association qui souhaite renforcer la liberté d'expression artistique et défendre la démocratie contre l'extrémisme de droite grandissant.
En ce qui concerne le procès, je souhaite que la façon dont la justice a travaillé à Halle serve d'incitation pour tous les juristes et qu'ils y voient comment on peut mener un procès de la sorte, avec la dimension politique qu'il comporte. Cela veut dire mettre en avant les victimes et leur donner de la place.
Pendant le procès, Esther Dischereit a constaté que certaines personnes, notamment les parents des victimes assassinées, n'étaient pas capables de prendre la parole en public.
J'ai beaucoup parlé des rescapés de l'attentat, mais les personnes les plus touchées sont bien sûr les familles de Jana L. et de Kevin S. On a pu entendre le témoignage du père de Kevin S. grâce à l'avocat qui le représentait. Le père de Kevin S. a dit qu'il ne pouvait pas assister à l'audience. Il ne pouvait pas, physiquement, émotionnellement. Et c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Les familles qui ont été touchées par ces meurtres, qui ont perdu leurs enfants, elles ne peuvent pas toujours prendre la parole en public et être fortes. Et c'est le devoir du tribunal de les inclure au procès. C'est important que des personnes qui ne peuvent pas parler, qui sont obligées de se retirer, sachent qu'elles ne sont pas seules. On peut le leur montrer. Et ce livre, c'est peut-être un signe, quelque chose qui dirait « Je viens vers toi et je veux être avec toi ». Mais c'est clairement leur deuil, leur souffrance à ces familles. Le recueil « N'aie pas peur, raconte tout », publié par Esther Dischereit, est paru fin août aux éditions Herder. Il rassemble les voix des survivants de l'attentat de Halle, des procès-verbaux, des interviews et des portraits des parties civiles.
Si vous voulez en savoir plus sur Esther Dischereit, nous vous recommandons de lire son livre paru en 2020 sous le titre « Mama, kann ich das Deutschlandlied singen ?»« Maman, est-ce que je peux chanter le chant de l'Allemagne ?» Elle y a rassemblé des textes qui parlent de son engagement politique et solidaire et de sa lutte pour la défense de la démocratie. Tout comme le dit Aleda Asman, qui a reçu le prix de la paix du marché du livre allemand, Esther Dischereit cultive ce qu'elle appelle la mémoire à long terme des courageux et des engagés. En 2019 et 2020, Esther Dischereit a enseigné la poésie à l'université à New York et dans le Missouri. Une édition bilingue de poèmes anciens et plus nouveaux est parue. C'est le poète écossais Ian Galbraith qui les a traduits en anglais. Clarisse va nous lire deux d'entre eux.
1866, à l'auberge du Mouton. Derrière les maisons des Juifs, vraisemblablement jusqu'en 1925, puis l'Amérique. Une pierre sur les tombes du cimetière juif, avec des mots allemands. Et ce pour Adonai, le Seigneur. Dans ce village de 60 âmes, entre les champs et les collines, à 1 heure de la ville, habitent deux familles de Sinti, un couple de la frontière, la femme d'ici, lui de là-bas, et le diamantaire d'Amsterdam qui avait fui devant Isabelle, pose plus tard comme modèle pour le Jésus âgé de 12 ans, dans le temple, en route vers Wameling, via Auschwitz. Là où la rue s'appelle « Derrière les maisons des Juifs », avec un chat, un chien, près de la maison de la voisine, au crépi épais, chez qui on entend les hommes qui prient à travers le plafond de la chambre, avec leurs vieilles chaussures. Ça grince un peu quand ils se balancent en avant, le samedi. Elle ne les entend pas, ne veut pas montrer le chemin aux étrangers. Jamais, non, pas eu de salle de prière ici, veut pas, rien trouver, dans le grenier. Les professeurs à côté laissent les volets fermés. Dans le village voisin attend une vieille enfant Goebbels. Rosa de la maison derrière les maisons des Juifs, celle qui vient d'Auschwitz, est assise à côté d'elle. À la kermesse, élève un verre de bière mousseuse, l'autre aussi. Elles boivent bruyamment et essuient leurs lèvres blanches. Dans le grenier, il y a des épaulettes arrachées. Ceux qui furent. Je ne peux pas faire un pas sans rencontrer ceux qui furent. Les femmes qui portent des casquettes à visière et un pantalon de jogging, l'une en rose, ne le savent pas. Ceux qui furent, derrière et devant elles, les accompagnent quand elles gravissent la montagne, avec leurs enfants en poussant les vélos de ceux qui sont encore petits. « Ah vraiment ?» disent-elles. « C'est intéressant. On a du mal à le croire. » Au pied du cimetière envahi par les broussailles, des jeunes décapsulent leur bière, fument, musique, pantalon couleur camouflage et des cheveux coupés courts, très courts. Ceux qui furent marchent au milieu d'eux. Ça ne les dérange pas. Un d'eux rote. Ils regardent vers le chemin comme si quelqu'un venait de passer. Mais ce n'était que moi. Dans le prochain épisode de Littéramour, nous parlerons avec l'écrivaine française Cécile Weisbrot. Elle nous parlera de son nouveau roman, Nevermore. Nous vous présenterons également la traductrice Karin Utendorfer, qui a traduit le roman Nagori de l'écrivaine franco-japonaise Ryoko Sekiguchi. Elles vont recevoir le tout nouveau prix Première à Tübingen lors d'une cérémonie qui aura lieu le 25 septembre. D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et surtout à partager notre podcast. C'était Littéramour en compagnie de Clarisse Cosset et de
Sigrid Brinkmann.